Nous abordons maintenant des opérations de restructuration particulièrement importantes, puisque nous allons parler des fusions et des scissions. Alors, ces fusions et ces scissions, en quoi est-ce qu'elles consistent? Je vais en parler avec Alain Courret, professeur comme moi à l'Université Paris 1 et avocat. Fusion et scission, décrivons-les simplement. Une fusion, que se passe-t-il? Nous avons une société qui en absorbe une autre. Il y a une absorbée, une absorbante. L'absorbée va disparaître dans l'opération et l'absorbante va recevoir, elle va absorber, elle va recevoir tout le patrimoine de l'absorbée, ou presque tout le patrimoine, mais en principe tout le patrimoine. C'est-à-dire que tous les biens, tous les contrats, toutes les dettes que peut avoir une société, si elle est absorbée, tout cela va aller à l'absorbante. Qu'est-ce qui arrive aux actionnaires ou aux associés de cette société qui disparaît? Est-ce qu'il ne leur reste rien? Eh bien, ils vont devenir eux-mêmes associés ou actionnaires de l'absorbante. Ça, c'est la fusion. La scission, que se passe-t-il? Nous avons une société qui va disparaître là encore, une société qui va se scinder, la société scindée, et elle va transmettre son patrimoine à deux ou plus sociétés bénéficiaires, là aussi avec cet effet de transmission universelle du patrimoine, mais qui va être patrimoine qui va être partagé entre les sociétés bénéficiaires. Alors Alain, est-ce que tu veux commencer en évoquant les conditions d'une telle opération, et puis nous verrons ensuite les effets.
Oui, Bruno, s'agissant des conditions, évidemment, de manière évidente, on est en présence d'un acte grave, d'un acte important, pour l'absorber, puisque l'absorber va disparaître. Et donc, on comprend bien que l'on réunisse une assemblée générale extraordinaire, puisque c'est la loi même de la société qui va être ici modifiée. Et côté absorbante, on conçoit également le même formalisme, parce qu'on va accueillir un apport qui n'est pas un apport quelconque. C'est un apport qui véhicule avec lui des passifs, éventuellement. Alors, il y a quand même une petite exception, et notre droit, progressivement, la prise en compte, c'est le cas de la fusion-absorption lorsque la filiale est détenue à 100%. Parce que à ce moment-là, évidemment, d'un côté comme de l'autre, on ne voit plus très bien l'intérêt de passer par des assemblées générales très très lourdes. On a aussi des règles concernant la filiale à 90%, mais ce sont déjà des choses un petit peu spéciales. Alors, s'agissant de la transmission universelle du patrimoine, je crois que c'est vraiment la caractéristique fondamentale des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs.
Oui, nous n'avons pas encore parlé de l'apport partiel d'actifs qui va emprunter une partie de son régime aux
Voilà,
scissions, effectivement. Oui, tout
tout
à
à
fait.
fait. C'est une caractéristique assez extraordinaire parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, un certain nombre de droits de la planète ignorent la transmission universelle du patrimoine. Et il faut bien comprendre ce que c'est. La transmission universelle du patrimoine, c'est d'abord la possibilité d'accueillir toute une série d'actifs qui, pour certains, sont soumis à des régimes juridiques très stricts. Et donc, si l'on n'avait pas d'effet de transmission universelle, il faudrait pour chacun de ces actifs appliquer les règles qui lui sont propres. S'il y a un bateau qui appartient à la société, pourquoi pas, eh bien, il faudra appliquer le droit maritime et les règles concernant la transmission des bateaux. Si c'est un avion, même chose. Si c'est un fonds de commerce, on a une réglementation spéciale. La transmission universelle rabote tous les régimes spéciaux. Tous les biens se retrouvent transmis, transférés, sans formalisme aucun, enfin, à des exceptions près, bien entendu, comme toujours. Et donc, c'est une situation extrêmement confortable. Alors, en même temps, parce qu'on voit bien que c'est un patrimoine qui va être transmis, tous les passifs, tous les éléments du passif vont être également transférés à la société absorbante qui va se retrouver en situation éventuellement de débitrice. Voilà, voilà le principe général. Maintenant, on devine que ce principe général résiste mal à des cas un petit peu exceptionnels. Tous les contrats sont transférés, oui. Mais on sait bien qu'il y a des contrats dans lesquels la considération de son co-contractant est extrêmement importante. Est-ce que je peux admettre demain que mon partenaire soit une autre société que celle avec qui j'ai signé, alors qu'il était essentiel pour moi de connaître cette structure et ses dirigeants? Donc, on voit bien, inévitablement, notre droit est amené au cas par cas à prendre en compte des situations juridiques marquées par une très forte considération de la personne. Et évidemment, les contrats de franchise, par exemple, les contrats de concession exclusive, sont des contrats qui auront moins vocation à être transmis que d'autres. Même chose si on regarde du côté passif. Évidemment, tous les passifs sont transmis et c'est heureux. Hein, c'est heureux. Les créanciers savent que derrière la fusion, ils vont avoir un partenaire. Mais il faut bien imaginer, par exemple, que dans cette responsabilité, il y a aussi une responsabilité qui est pénale. Et que dans notre droit, qui est très, très axé sur l'idée de personnalité des peines, on imaginerait mal que la société absorbante soit poursuivie en gestion, soit poursuivie en justice pour des fautes pénales qui auraient été commises par l'absorbé. Donc, au niveau de la poursuite, on voit bien qu'on ne peut pas transférer la responsabilité. Mais bien évidemment, si l'absorbé a été déjà condamné et qu'elle s'est vue infliger une amende importante, la charge de cette amende passera dans le cadre de la transmission universelle. Voilà pour ce qui est de la fusion. On retrouve le mécanisme au niveau de la scission, mais dans une logique un petit peu différente. La scission fait éclater l'ensemble en plusieurs sous-ensembles, mais pour chacun de ces sous-ensembles, la transmission universelle va jouer. Et dans l'apport partiel d'actifs, on réduit encore l'espace. Hein, j'apporte une branche d'activité avec tous ces éléments actifs, mais également avec tous ces éléments passifs.
Oui, alors que ce soit la scission ou l'apport partiel d'actifs, c'est des mécanismes, et surtout l'apport partiel d'actifs d'ailleurs, qui peuvent être dangereux pour les créanciers, parce que je pourrais décider d'apporter une activité parce que je sais qu'il y a un fort passif qui est attaché à cette activité, même s'il n'est pas encore déclaré. Et alors la règle de principe, c'est qu'il y a une solidarité entre la porteuse et, la société bénéficiaire. Donc en principe, les créanciers peuvent continuer à poursuivre la porteuse et peuvent poursuivre la société bénéficiaire des dettes qui sont attachées à l'apport. Mais il y a possibilité d'écarter cette solidarité. Ça ouvre un droit d'opposition pour les créanciers, mais un droit d'opposition avec des délais assez courts. Et finalement, ça peut être une opération très dangereuse pour les créanciers que de voir leur débiteur apporter à une société éventuellement nouvelle et peut-être pas très solvable, apporter une branche d'activité et le passif qui va avec, qui inclut leurs dettes.
Oui, on pourrait ajouter que, historiquement, l'apport partiel d'actifs est une construction totalement artificielle, parce que autant on conçoit la logique de la transmission universelle lorsque l'absorbé disparaît. Au fond, on reproduit le modèle humain, en quelque sorte, à la mort de l'individu, ses héritiers. Donc, il y a quelque chose de naturel, indiscutable. Dans l'apport partiel d'actifs, c'est totalement artificiel de décider comme ça que un ensemble de biens va se trouver transformé en une espèce de patrimoine. Ce qui fait que, historiquement, on a toujours vu une espèce de tentation, évidemment, des créanciers, de dire la société apporteuse existe toujours. Quand l'absorbé est absorbé, elle est morte. Il n'y a plus personne derrière. Dans l'apport partiel d'actifs, il y a toujours une entité qui survit. Ce qui fait que, comme tu l'évoquais, Bruno, sa manière à elle peut être de se défausser des choses avec des conséquences pour les créanciers, mais en sens inverse, il peut arriver que des créanciers soient tentés à tout prix d'aller chercher cette apporteuse en disant, après tout, elle existe toujours, elle est toujours vivante. Ouais. Et on voit pas mal de contentieux dans lesquels, alors que logiquement, on devrait agir contre la société bénéficiaire de l'apport, c'est la société apporteuse qui est assignée. Là, il y a une différence fondamentale avec la fusion-absorption et qui montre le caractère quand même très artificiel de cet apport partiel d'actifs. Cet transfert de personnalité n'a d'ailleurs été admis qu'à une époque très récente. D'ailleurs.
C'est la jurisprudence qui l'a admis. Les textes ne disent absolument pas de manière claire et précise que... Enfin, il disait qu'on pouvait soumettre l'apport partiel d'actifs, ils le disent encore, qu'on peut soumettre l'apport partiel d'actifs au régime des scissions, mais ils ne disent pas ce qui entraîne transmission universelle de patrimoine pour l'actif apporté. Très bien, je te remercie Alain.
Merci Bruno.